Notre invité est très élégant, il ressemble à un gentleman farmer, c'est normal. Il a un gilet en tweed et une chemise blanche, c'est Peter Wohlleben, le garde forestier désormais le plus célèbre au monde. Il a publié La vie secrète des arbres et il est notre invité, 8h22 sur France Culture.
Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Herner.
Vous nous avez expliqué, Peter Wohlleben, ce que vous aviez découvert, ce que vous appelez cette vie secrète des arbres. Les arbres communiquent entre eux, les arbres cèdent les uns les autres, les arbres disposent d'un internet. Alors ça fait un peu froncer les sourcils. Je vais vous parler des maladies des arbres. Ça par contre, on le sait, car beaucoup d'arbres sont malades en France. Des questions d'actualité extrêmement pressantes qui se font jour sur les arbres et sur les forêts. En Pologne, avec une forêt qui est une vieille forêt, peut-être pas une forêt primaire, en Amazonie, avec les feux de forêt. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur votre théorie d'ensemble, parce que finalement, on se dit que l'on a l'habitude aujourd'hui d'une prise de conscience de la souffrance des animaux, avec les conséquences que cela doit avoir sur notre alimentation, par exemple. Mais alors, si en plus, il faut prendre en compte la souffrance des arbres, est-ce que ça signifie, par exemple, qu'il va falloir abandonner toute utilisation du bois, Peter Wohlleben?
Nein, also ich finde, wir leben heute zumindest in Frankreich, in Mitteleuropa, in der besten aller Zeiten und wir können das auch genießen.
Je pense que nous vivons aujourd'hui en France, en Allemagne, dans le reste de l'Europe, la meilleure de toutes les périodes et que nous pouvons en profiter.
Mir geht es nur darum, zum einen, das in eine bessere Balance zu bringen.
Mais il m'importe simplement qu'on arrive à un meilleur équilibre.
Und zum anderen möchte ich einfach nur, dass die Leute wieder staunen können.
Et je voudrais surtout que les gens soient à nouveau capables de s'étonner.
So wie wir über einen Elefanten staunen, so kann man auch über Bäume staunen.
De la même façon qu'on s'étonne sur un éléphant, on peut aussi s'étonner au sujet des arbres.
Und Menschen, die Bäume lieben, die machen nichts verkehrt.
Et les gens qui aiment les arbres ont tout à fait raison.
Und die werden auch in ihrem Konsumverhalten das Richtige tun.
Et ils traduiront cet amour dans leur mode de consommation.
C'est-à-dire, parce que c'est ça qui est important. Et hier, j'ai mis sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter un extrait de votre livre, Peter Wohlleben, où il était question de la souffrance des arbres. Et alors, j'ai eu toutes sortes de commentaires assez ironiques. Alors comme ça, il faudrait arrêter de tondre la pelouse parce qu'on va l'entendre hurler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec un arbre, selon vous?
Ich möchte niemandem irgendwelche Ratschläge geben, weil jeder andere Möglichkeit hat. Und natürlich, wir müssen auch morgens zum Beispiel ein Croissant essen.
Si nous voulons manger un croissant le matin,
und dazu braucht es ein Feld, wo Getreide wächst.
Et pour ça, il faut un champ où poussent des céréales.
Und dort kann kein Urwald mehr wachsen.
Et là, la forêt primaire ne peut plus pousser.
Und in diesem Fall bin ich froh, dass dort kein Urwald wächst.
Et dans ce cas-là, je suis content qu'il n'y ait plus de forêt primaire à cet
endroit. Weil ich morgens auch Hunger habe.
Parce que j'ai faim, moi, le matin.
Mir geht es nur darum, dass wir der Natur auch ein wenig Platz lassen.
Mais je voudrais simplement qu'on laisse un peu de place à la nature.
Wo Bäume ihr wildes Leben leben können.
Où les arbres puissent vivre, continuer à vivre leur vie sauvage.
Erstmal für die Bäume und dann aber auch für uns.
D'abord pour les arbres, mais aussi pour nous.
Weil solche Wälder viel mehr Freude machen.
Car de telles forêts, c'est aussi beaucoup plus de joie pour nous.
Freude ist genauso wichtig wie ein Croissant zum Frühstück.
Et la joie, c'est aussi important que le croissant du petit déjeuner.
La forêt, c'est aussi un imaginaire, c'est aussi une partie de la vie des hommes, parce que vous parlez de protéger les arbres ont protégé les hommes. Par exemple, à côté de chez moi, dans la Drôme, dans la forêt de Souy, il y a eu des protestants qui se sont réfugiés pendant les guerres de religion. D'autres forêts ont permis à des hommes d'y trouver refuge. Et il y a aussi cela dans votre réflexion, la manière dont la forêt est un réservoir de mythologie et de réalité humaine inépuisable, Peter Wohlleben.
Ja, also der Wald gehört zur menschlichen Kultur.
Oui, la forêt fait partie intégrante de la culture humaine.
Ohne Wald hätte der Mensch niemals Feuer machen können.
Sans les forêts, l'homme n'aurait jamais pu faire de feu.
Hätte dann niemals dieses große Gehirn entwickelt.
Il n'aurait jamais pu développer son cerveau.
Also wir verdanken unser Gehirn den Bäumen.
Donc nous sommes redevables de notre cerveau aux arbres.
Et aujourd'hui, cette forêt souffre d'un certain nombre d'attaques. Alors, il y a notamment cette question qui porte sur cette forêt. Vous dites que ça n'est pas forcément une forêt primaire en Pologne. Comment reconnaît-on d'ailleurs une forêt primaire? Est-ce que moi, quand je me promène en forêt, je peux avoir des indices qui me permettent de dire s'il s'agit d'une forêt artificielle ou d'une forêt primaire?
Also, un echter Urwald hat erstmal sehr viel dicke alte Bäume.
Une véritable forêt primaire a beaucoup d'arbres très âgés.
Es gibt auch viele umgestürzte alte Bäume, die schon abgestorben sind.
Il y a beaucoup d'arbres qui sont morts, qui ne sont pas tombés.
Und den Rest müssen wir leider Wissenschaftlern überlassen.
Et quant au reste, il faut le laisser aux scientifiques.
Es gibt zum Beispiel kleine Urwaldkäferarten, die nicht fliegen können.
Il y a par exemple des espèces de
Käfer, kleine Käferarten, die nicht fliegen können.
Petits scarabées qui ne peuvent pas voler.
Weil ein Urwald sich nie verändert, müssen sie auch nicht weg.
Oui, parce que comme une forêt primaire ne se transforme pas, ils sont pas obligés de s'en aller.
Aber wenn man diesen Wald beseitigt, dann beseitigt man auch diese Käfer.
Mais lorsqu'on supprime cette forêt, lorsqu'on la détruit, on détruit aussi cette espèce.
Und die kommen dann nicht mehr zurück, weil sie ja laufen müssten.
Oui, et les scarabées, ils reviennent pas parce qu'ils doivent marcher pour cela.
Das heißt, wenn man diese Käfer zum Beispiel findet, kann man sicher sein, einen Urwald zu haben.
Et lorsqu'on trouve cette espèce précise de scarabée ou d'insecte, on peut être sûr qu'il s'agit d'une forêt primaire.
Et alors cette forêt, donc au nord-est de la Pologne, qui aujourd'hui est au cœur d'une immense bataille, la Cour de justice de l'Union européenne a menacé la Pologne d'une astreinte de 100 000 euros par jour si elle ne cessait pas immédiatement l'abattage des arbres donc dans cette forêt de Białowieża. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous que cette forêt recèle, Peter Wolleben ?
Ich finde das eine Katastrophe.
Das ist eine Katastrophe.
Und deswegen werde ich nächstes Jahr auch diesen Urwald besuchen.
Je compte aller visiter cette forêt l'an prochain.
Und dort mit Umweltverbänden eine Aktion machen.
Et entamer une action avec des associations de protection de la nature.
Weil das Buch über Bäume auch in Polen ein großer Erfolg war.
Mon livre sur les arbres a eu un grand succès en Pologne.
Können wir da auch ein entsprechendes Medieninteresse.
Et donc on a la possibilité d'éveiller un certain l'intérêt des médias.
Und also weil ich möchte diesem Wald auf jeden Fall helfen.
J'aimerais vraiment aider cette forêt, oui.
Je vais vous poser une question qui ne va pas vous plaire, Peter Wolleben, parce que je vous ai demandé si la forêt primaire avait une fonction, et vous m'avez répondu que ça, c'était une vision très moderne des choses qui venait des romantiques et du 19e siècle, que les forêts étaient là et qu'après tout, elles n'avaient pas à justifier de leur présence. Mais si l'on replante des arbres, si on a une politique de reforestation, parce que la plupart des arbres qui nous entourent sont des arbres plantés depuis peu, est-ce que ça remplit la même fonction sur le plan écologique?
Nein. Gepflanzte Bäume sind erstmal schon schwerst behindert, weil man die Wurzelspitzen kappt. Also die Spitzen der Wurzeln werden gekappt.
Les arbres que l'on plante sont les arbres plus faibles, car leurs racines sont coupées.
Und in den Wurzelspitzen sind gehirnähnliche Strukturen.
Et à l'extrémité des racines se trouvent des structures qui ressemblent à celles du cerveau.
Was mit einem Menschen passiert, dem man gehirnähnliche Strukturen entfernt, kann man sich vorstellen.
Et on peut très bien imaginer ce qui arriverait à un être humain dont on supprimerait les parties équivalentes du cerveau.
Ich möchte jetzt keinen bestimmten Politiker nennen.
Je ne voudrais pas parler d'un politicien en particulier.
Mais aber Bäume werden dann orientierungslos und Wurzeln nicht mehr tief.
Les arbres perdraient tout sens de l'orientation et
und gehen mit den Wurzeln nicht mehr tief in
den Boden. Ils ne peuvent plonger leurs racines suffisamment loin dans le sol.
Und wir haben dann auch nur die Bäume und in einem Wald, in einem Buchenwald gibt es 10.000 Tierarten, die dazugehören.
Et là, on ne parle que des arbres, mais dans une forêt, il y a 10 000 espèces animales qui vivent und avec les arbres.
Die müsste man auch alle mit dazusetzen, kompletten Wald zu haben.
Voilà, il faut aussi les introduire, si on veut avoir une forêt complète, disons.
Also haben wir tatsächlich nur Plantagen. Also ein gepflanzter Wald ist wie ein Maisfeld in groß.
Oui, en fait, une forêt plantée, c'est comme un champ de maïs, mais en plus grand.
Et toujours dans l'actualité des arbres, et je suis heureux qu'on puisse en parler ce matin, il y a des maladies qui affectent les arbres, il y a des épidémies. Alors moi je vais vous parler des épidémies qui affectent les arbres en France, mais bien évidemment la plupart de ces épidémies, elles existent en Europe. On a notamment une maladie des oliviers par exemple, qui tue les oliviers en Italie, qui les tue en Corse aussi. On a un chancre coloré qui est une maladie grave qui cause la mort chaque année de milliers de platanes. D'où viennent ces maladies? Qu'est-ce que l'on peut faire pour lutter contre?
Diese Krankheiten betreffen immer Kulturwälder oder Kulturbäume.
Ces maladies frappent essentiellement des arbres cultivés, des arbres qui ont été plantés.
So, das ist damit kein Naturproblem oder ein Problem natürlicher Wälder.
Ce n'est pas un problème des forêts naturelles,
sondern unserer Kulturlandschaft.
Mais de notre paysage cultivé.
Pourquoi?
Weil diese Bäume, Platanen zum Beispiel, sind in der Regel Hybride.
Parce que ces arbres, les platanes, par exemple, sont en général des hybrides.
Die es hier von Natur aus gar nicht gibt.
Qui n'existent pas dans la nature, à proprement parler.
Die Natur hat sie aus gutem Grund nicht hier.
Et la Natur avait de bonnes raisons de ne pas les favoriser. Und
sobald wir etwas gegen die Natur machen, das sind zum Beispiel geschwächte Bäume.
Et dès qu'on fait quelque chose contre la nature, là en l'occurrence cultiver des arbres qui sont affaiblis.
Und die können sehr viel leichter von Insekten oder Pilzen attaquiert werden.
Ils sont donc
werden.
Beaucoup plus vulnérables aux attaques d'insectes ou de maladies.
Est-ce que vous voulez dire par exemple que les platanes sont des arbres plus fragiles que les autres arbres?
Grundsätzlich nicht.
En principe, non.
Wenn sie in ihrer natürlichen Umgebung und vor allem mit ihren Familien wachsen.
À condition qu'ils poussent dans leur environnement naturel et avec leur famille.
Und wir pflanzen sie in Städte, zum Beispiel hier in Paris.
Nous, on les plante dans les villes, par exemple ici à Paris.
Und da leben sie wie Straßenkinder.
Et là, ils vivent comme des enfants des rues, d'une certaine
ohne
façon.
Ohne Familie, ohne
sans
Unterstützung.
Familie, sans soutien.
Und dann wundern wir uns, warum solche Bäume schneller krank werden.
Et après, on s'étonne qu'ils soient plus rapidement malades que d'autres.
Bon, bah alors, je pourrais vous poser la même question avec les frênes, parce que, alors là, partout en Europe, les frênes ont beaucoup de problèmes. Ils sont affectés par un champignon, et donc on a un vrai souci avec tous les frênes qu'on a, pas seulement en France, parce qu'on peut les trouver dans le nord, Pas-de-Calais, jusqu'en Belgique. Qu'est-ce qui se passe avec les frênes? Là aussi, est-ce que vous diriez qu'on a affaire à des arbres qui sont malades parce qu'ils ont été plantés de manière un peu imprudente par les hommes?
Sind die auch krank, weil die so
gepflanzt worden sind? Und weil sie eben nicht in ihrem natürlichen Ökosystem leben.
Parce qu'ils ne vivent pas dans leur écosystème normal.
Ein Beispiel, ein unberührter Wald hier in Frankreich kühlt sich im Sommer 3 Grad stärker runter als ein bewirtschafteter Wald.
Par exemple, une forêt naturelle ici en France aura une température inférieure de 3 degrés à une forêt plantée.
Und das heißt, Baumplantagen oder gepflanzte Bäume haben im Sommer großen Hitzestress.
Et les forêts donc cultivées ont un stress dû à la chaleur beaucoup plus important.
Und da spielt die Baumart gar keine Rolle.
Peu importe l'espèce d'arbre, ça concerne toutes les espèces.
Bon alors, si je vous suis bien, dans ce cas-là, il n'y a pas tellement lieu d'être inquiet. Ça veut dire que la nature, elle reprend ses droits. Parce que j'aurais pu vous parler de la pyrale du buis, qui a aussi un vrai problème en France. Vous me direz finalement que, au bout du compte, l'écosystème, il va reprendre le dessus.
Ja, das ist genau der Punkt. Wir zerstören
c'est exactement unseren Lebensraum. Le problème. Nous détruisons notre propre espace de vie.
Hier wird irgendwann die nächste Eiszeit drüber rollen.
Un jour ou l'autre, ici, une nouvelle glaciation va nous tomber dessus.
Dann werden alle französischen Wälder weg sein und anschließend wieder neu entstehen.
Et toutes les forêts françaises seront détruites et réapparaîtront plus tard.
Also man sieht damit, Natur wird immer auch durch natürliche Phänomene zerstört und wieder aufgebaut.
Die Natur ist toujours détruite par des phénomènes naturels et reconstituée par des phénomènes naturels.
Natürlich in sehr langen Zeiträumen.
Mais sur des durées évidemment très longues.
Unser Problem ist heute, wir haben keine Zeit und wir zerstören unseren Lebensraum.
Et notre problème, c'est que nous n'avons pas le temps et nous détruisons notre environnement.
Alors la destruction des arbres, elle se traduit également chaque été par des incendies, qui affectent le sud de la France, mais qui sont aujourd'hui très importants, par exemple autour de Los Angeles. J'ai lu que ces incendies pouvaient être naturels, c'est-à-dire qu'il y a aussi un mode de régénération des forêts par les feux. Qu'en est-il, selon vous, Peter Wohleben?
In Europa gibt es zum Beispiel von Natur aus gar keine Waldbrände.
En Europe, il n'y a pas d'incendie naturel.
Und wenn ich mir den Süden Frankreichs angucke mit den großen Pinienplantagen,
et lorsqu'on voit les grandes pinèdes du sud de la France,
dann wundert mich die Anzahl der Waldbrände nicht. Oder
je suis pas étonné de voir le nombre d'incendies.
In Portugal ist es Eukalyptus.
Au Portugal, c'est des Eukalyptus.
In Spanien sind es auch Pinienwälder.
En Espagne, c'est aussi des pins.
Und von Natur aus ist auch im Süden Frankreichs und auch in Spanien und in Portugal waren das Laubwälder.
Oui, à l'origine, que ce soit dans le sud de la France ou en Espagne, il y avait des bois de feuillus.
Sie können gerne einmal probieren, einen lebenden Eichenzweig anzuzünden. Das funktioniert nicht.
Et vous pouvez toujours essayer de mettre le feu à un chêne vivant. Ça marche pas.
Und bei Eukalyptus ist wie ein offenes Benzinfass.
Et un eucalyptus, c'est comme un bidon d'essence ouvert.
Da reicht ein Streichholz.
Une simple allumette, et ça flambe.
Also Waldbrände sind ein kulturelles Phänomen.
Et les incendies de forêt sont un phénomène culturel.
Un phénomène lié à ces forêts artificielles si l'on peut dire, qui sont des forêts d'arbres qui n'auraient jamais dû être placés comme ça les uns à côté des autres avec une uniformité, selon vous, dangereuse, Peter Woloben?
Ja, das ist sehr gefährlich.
C'est très dangereux.
Das stammt aus einer Zeit, wo es teilweise gar keine Wälder mehr gab.
Et c'est l'héritage d'une époque où il n'y avait pratiquement plus de forêt.
Man hat schnell neue Wälder angepflanzt,
weil on a voulu planter très vite de nouvelles forêts.
Und heute wissen wir mehr und heute sollten wir wieder mehr zu natürlichen Ökosystemen kommen.
Et aujourd'hui on en sait davantage et on devrait retourner plutôt vers des écosystèmes plus équilibrés.
Und die produzieren übrigens sogar mehr Holz.
Lesquels produisent davantage de bois.
Mais alors c'est justement ça, parce que aujourd'hui on a par exemple dans le massif des Morts, dans le sud de la France, on a de vastes zones qui ont été dévastées par des incendies. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Est-ce qu'il faut replanter à l'identique? Est-ce qu'il faut mettre des chênes? Bon, si on met des chênes, je crains que nos petits-petits-enfants ne les voient pas encore très grands.
Doch, also das ist das Schöne. Natur kann man nicht kaputt machen.
Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut pas détruire la nature complètement.
Man kann immer, es ist nie zu spät, neu anzufangen.
Il n'est jamais trop tard pour faire les choses bien et commencer à zéro.
Und in diesem Fall würde ich mit Laubwäldern anfangen.
Et dans ce cas, je préconiserais de replanter les feuillus.
Das heißt zum Beispiel Eichenpflanzen.
Mais les replanter, par exemple, des chênes. Les replants, alors donc pas à l'identique, c'est-à-dire transformer en fait des forêts qui bien souvent sont des forêts artificielles, des pinèdes, des forêts de sapins, avec des arbres qui sont selon vous plus adaptés.
Das geht. Wir haben in Deutschland ja dasselbe Problem mit Plantagen.
Il est possible, c'est possible de faire ça. Nous avons les mêmes problèmes en Allemagne avec les forêts cultivées.
Wenn man das schonend machen möchte, kann man zum Beispiel die Nadelbäume als Stiefeltern für die kleinen Laubbäume nehmen.
On peut utiliser les arbres à aiguilles comme parents des arbres à feuilles, par exemple.
Und dieser Umwandlungsprozess dauert ungefähr 100 Jahre.
Mais ça prend une centaine d'années.
Aber das ist noch nicht mal eine Baumgeneration.
Mais c'est même pas une génération pour les arbres.
Dans les forêts primaires, il y a une diversité qu'on ne trouve évidemment pas dans la plupart des forêts françaises, puisqu'elles sont plantées par l'homme. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui rend ces forêts plus vulnérables?
Ja, genau.
Exactement.
Da fehlen einfach ganz, ganz viele Komponenten, die wir noch nicht verstanden haben.
Dans les forêts cultivées, il manque beaucoup de composants que nous n'avons pas tous identifiés d'ailleurs.
Und es gibt auch hier in Frankreich ganz viele Tierarten, kleine Tierarten, die noch nicht entdeckt sind.
Il y a en France ici même de nombreuses espèces animales qui n'ont même pas été découvertes.
Deswegen ist es wichtig, Dinge, die wir nicht verstehen, nicht zu stark zu stören.
C'est pourquoi on devrait s'abstenir de trop déranger des choses que nous ne connaissons pas à fond.
Une dernière question, Peter Woloben. Maintenant, vous êtes très connu grâce à La vie secrète des armes qui est devenu un best-seller partout dans le monde. Avez-vous eu l'occasion de discuter avec des femmes et des hommes politiques pour les sensibiliser sur cette question? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Ja, also die Möglichkeiten kommen zunehmend.
Oui, les possibilités sont de plus en plus nombreuses sur ce point-là.
Ich weiß zum Beispiel, dass in Polen im Parlament die Opposition das Buch der Regierungspartei übergeben hat.
Je sais par exemple que au Parlement polonais, l'opposition a remis ce livre au gouvernement.
Also es tut sich was, aber für mich viel wichtiger als die Politiker sind die Waldbesitzer.
Mais pour moi beaucoup plus important que les politiciens, ce sont les propriétaires de forêts.
Und das ist im öffentlichen Wald ist das die ganze Bevölkerung, also auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
C'est la population tout entière qui est propriétaire des forêts publiques.
Ja, also auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Et aussi tous les auditeurs, tous les téléspectateurs.
Et là la prise de conscience, elle est là.
Gibt's da Bewusstsein?
Ja, und das ist das Schöne.
Oui, c'est ça qui est très bien.
Also das Band von Mensch zu Natur, auch bei Stadtmenschen, ist nicht zerschnitten.
C'est-à-dire que le lien avec la nature, même chez les citadins, n'est pas rompu.
Vous restez avec nous, Peter Woloben, traduit par Bernard Mangiante. Je rappelle le titre de vos ouvrages, La vie secrète des arbres, c'est aux éditions des Arènes. Et puis pour les enfants, écoute les arbres parler à la découverte de la forêt chez Michel Lafon. On va passer de la culture des arbres à la culture tout court. Je vous présente Sandrine Tenner, qui est la directrice de France Culture. Sandrine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là pour évoquer le nouveau papier. Le nouveau papier, c'est le nouveau magazine de France Culture.
Oui, je pensais que vous alliez faire une transition avec les arbres, parce qu'après tout, le magazine papier, comme tous les papiers, procède des arbres. Eh bien, écoutez, oui, je suis venue... Oui, bah aussi, vous auriez pu le faire.
Oui, mais Peter Le Pen a dit qu'on avait le droit d'utiliser des arbres pour faire du papier.
Oui, je suis venue vous parler du nouveau numéro de papier qui arrive en kiosque et en librairie ce week-end. Peut-être sauver ceux qui cherchent déjà désespérément des cadeaux de Noël. Et puis, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous parler du développement de France Culture. Alors, à la une de ce numéro de papier, pour commencer par l'actualité immédiate, un grand dossier documenté par plusieurs émissions de référence de France Culture sur le marché des croyances, un sujet de circonstance au mois de décembre, un avoué nu avec le cuisinier Michel Bras, des masterclass avec Dominique Gonzalez-Forster et Amélie Nothomb, une interview inédite que vous avez faite, Guillaume, avec Steven Pinker sur la violence, et puis de nombreux articles sur l'affaire Weinstein, revisité au calme par Christine Angot, ou encore sur Claire Underwood, ce personnage qui va prendre la place centrale de House of Cards, et bien d'autres sujets et signatures. Mais papier, c'est bien autre chose qu'un magazine de retranscription d'émissions de France Culture, grâce au talent de notre coéditeur Philippe Thureau d'Engin, ancien directeur de la rédaction de Courrier International. Ce sont des contenus très enrichis, des rapprochements de sujets, un gros travail sur l'image, un portfolio en l'occurrence sur l'Inde, des articles inédits issus de la meilleure presse étrangère. Papier est aujourd'hui, à partir de France Culture, mais bien au-delà, désormais avec une identité autonome, une grande revue de la vie, des savoirs, des idées et de la création. Mais il me semblait intéressant d'utiliser ce moment de la parution de ce nouveau papier pour expliquer pourquoi nous faisons un magazine, parce que finalement c'est peut-être pas si évident que ça. Alors voilà, au-delà de notre goût pour l'écrit, ce magazine s'inscrit dans une démarche globale, ce qu'on appelle un projet. Évidemment, tout procède de la richesse inouïe de ce que vous tous, vous produisez pour l'antenne, ça c'est la base. Mais en vérité, cela va de pair, d'une part, avec un travail d'écoute de nos audiences, de notre public, ce qui est la moindre des choses pour un service public, et c'est rendu possible, c'est le second point, par les effets insoupçonnés de la révolution numérique et de la manière dont elle transforme et élargit les possibles et donc naturellement nos missions et nos métiers. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'offrir à partir de nos programmes retravaillés, enrichis, une multitude de propositions qui répondent aux usages contemporains. C'est ce que l'on appelle le média global. Certains d'entre vous nous écoutent en direct ou en différé, ou préfèrent nous garder et nous lire, ou venir nous voir, ou nous regarder grâce à la vidéo. Notre développement, ce sont des programmes qui font la radio au fil des heures, qui produisent des podcasts, mais aussi des programmes faits exprès pour notre site et les réseaux sociaux, comme des idées à partager, ou ce très beau format récemment sur la correspondance entre Albert Camus et Maria Cazares, ou encore Superfell, Guillaume, que vous produisez chaque vendredi, notre podcast natif. Et puis, ce sont aussi des spectacles de fiction, et puis des forums dans le grand amphi de la Sorbonne. Le prochain aura lieu le 13 janvier dans ce grand amphi sur le thème très contemporain de l'animal. Et puis ce sont aussi des livres et enfin un magazine. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de proposer information, savoir, idées, création à des publics qui ne peuvent pas toujours nous écouter ou qui nous découvrent autrement que par la radio, grâce aux réseaux sociaux, sous d'autres formats ou encore en librairie. Alors vous l'aurez compris, le projet de France Culture, c'est de tirer parti de la puissance de ce qui est produit pour offrir, en fonction des usages et des goûts de chacun, autant de propositions différentes pour tous les publics. Alors oui, je vous invite à découvrir papier en librairie, comme en kiosque ou en abonnement. Ça, c'est pour la partie cadeau de Noël, pour ceux qui n'ont vraiment pas encore trouvé toutes les idées. Et puis Guillaume, je donne rendez-vous à tous ceux qui sont à Paris ce week-end donc à l'Odéon, au Théâtre de l'Odéon, demain à 14h30 autour d'Étienne Klein, pour parler de l'univers, de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas. Une séance qui sera ensuite diffusée pour tous sur France Culture et qui terminera peut-être dans un livre ou dans un numéro de la revue papier.
Merci beaucoup Sandrine Trainer. Justement, Peter Wolleben, on va vous l'offrir un papier, comme ça va vous permettre de parfaire votre français. Et puis il y a les mystères de la science, vous reviendrez j'espère pour nous parler des mystères de la forêt. Il y a encore des choses que nous avons à découvrir sur la forêt, Peter Wolleben.
zu erzählen? Gibt es noch was zu erzählen?
Ja, es gibt jede Menge zu erzählen. Ich habe
encore beaucoup de choses à raconter, bien sûr.
Nach dem ersten Buch gedacht, ich hätte alles aufgeschrieben.
Je croyais après le premier livre avoir tout écrit.
Aber das stimmt nicht, weil ich selber jeden Tag was Neues dazu lerne.
Mais c'est évidemment pas vrai, puisque j'en apprends encore tous les jours.
Et sur quoi travaillez-vous justement en ce moment?
Das nächste Buch wird ein Buch über Tiere und das dritte, es ist eine Trilogie über das Netzwerk der Natur, wie zum Beispiel Fische in Bäume kommen.
Alors le prochain livre parlera des animaux et le troisième, puisqu'il s'agit d'une trilogie, ce sera sur le réseau de la nature, par exemple comment les poissons arrivent dans les arbres.